À mi-pente, l'odeur du sang et des trembles mouillés lui parvint. Il avait marché longtemps. La journée finissait à mesure que la colline, derrière lui, s'arrondissait et qu'une autre, devant lui, s'élevait. Le hameau gisait là, sous ses yeux abîmés par la brune. Il voyait un filet de maisons gris et noires de part et d'autre de ce qui ressemblait à une rivière, si étroite qu'elle disparaissait presque entre les arbres. Il distinguait deux ponts, bombés, plutôt larges, qui enjambaient fièrement le cours d'eau. L'église, toute menue dans cette vallée, tendait vers les nuages son clocher silencieux. D'où il se trouvait, il compta 20 maisons, 3 longs bâtiments à l'écart, des étables, une route qui piquait à l'entrée du village et sortait de l'autre côté avant de remonter. C'était sa première fois. Sa mère, âgée, ne quittait plus leur maison, à 30 kilomètres. Quand on l'avait appelée, cette fois-ci, elle s'était tournée vers son fils et il avait compris. Il prenait son tour. Il faisait suite. Où dois-je aller ? Entre deux basses collines. Il n'y a qu'un seul lieu dit, le fond du puits. Ne traîne pas, tu es attendu. Et si je me perds ? Tu ne te perdras pas. C'est pour ça que les braves gens font appel à nous, car nous ne nous perdons jamais. Tâche de t'en souvenir. Puis, elle avait préparé un bagage léger et il était parti pour une journée de marche, les yeux fixés sur les basses collines à l'horizon qui enfermaient un village où les âmes perdues avaient appelé. Sur le chemin, 10 fois il s'était retourné, croyant sentir sa mère derrière lui. Mais rien ne bougeait, ni les trembles verts et longs, ni les prairies débordées par leurs fleurs. Le vent brisa le paysage en milieu de journée. Il croyait entendre la voix de sa mère. Il devait avancer vite, passer la colline, arriver avant la nuit. Là, on attendait sa venue. Il comprendrait, avait-elle dit. Quelqu'un viendrait l'accueillir. On l'emmènerait dans une maison et ça commencerait au bord d'un lit, près d'un malade. 100 fois, il avait accompagné sa mère quand elle était appelée. Il n'y avait pas d'autre manière de le dire, elle était appelée. Quand les hommes ne savaient plus où demander de l'aide. Les hôpitaux étaient trop loin, les médecins absents, les vieux refusaient d'être soignés autrement que par des coupeurs de feu, des guérisseurs, des rebouteux. Les noms qu'on donnait à sa mère, elle s'en accommodait, et quand son fils lui demandait comment elle se définissait, elle répondait « Nous voyons des choses cachées, et il n'y a pas de mots pour cela. » Alors, elle laissait celles et ceux qu'elle nommait braves gens utiliser le langage qu'ils voulaient pendant qu'elle apprenait le sien à son fils. Aujourd'hui, sur un chemin sans bornes, il partait seul accomplir cette tâche, voir les choses cachées. C'est une manière douce, trop douce, de raconter. Ce garçon cheminant à dos de basse colline pour atteindre le fond du puits. Ce garçon, jeune comme une tige, moins joli qu'un enfant, mais plus qu'un adulte, ce garçon, pour les langues habituées aux choses cachées qu'il s'en va voir, ce garçon est un drame. Le fond du puits repose toujours à l'ombre. L'eau y est fraîche, l'herbe plus verte que sur les 2 seins pelés qui l'entourent. Une seule route le traverse, un clocher le grandit. Les maisons y sont bien rangées, les vivants persistent à vivre. On ne quitte jamais le fond du puits sur ses 2 jambes, mais toujours porté par d'autres. Des sorciers insolents ont fait ici de grands feux pour attraper le soleil, et le soleil les a punis. Plus jamais il ne vient. Parfois il effleure, en de rares occasions, il brûle les yeux, la peau éclate en bulles rouges sur le dos des enfants, alors on se terre encore plus loin, dans les arrières-cuisines et sous les appentis en bord de rivière. Le fond du puits s'appelle ainsi car, du sommet de la colline où le garçon se trouve, on n'imagine pas que la terre puisse accepter des endroits pareils. Il comprend pourquoi sa mère l'a envoyé à sa place. Elle n'a plus l'âge de marcher jusque-là. Elle n'a plus l'âge d'affronter cette solitude, ces vallées enfoncées. Lui doit apprendre que le soleil, ici, est un meurtrier, que l'eau est si froide qu'elle écrase le ventre, que la nuit, les deux collines se rapprochent pour tenir entre leurs cuisses les maisons au chaud jusqu'à l'aube. Sa mère n'a plus l'âge d'entrer en ces lieux. Il le sent, depuis la pente qui tourne entre des bosquets de genêts et des corridors de fleurs de carottes. Il n'y a aucun troupeau, aucun barbelé aux rives des champs, pas d'affût de chasse à l'orée des bois. Entre les basses collines, il n'y a rien que le fond du puits. Il se demande s'il en sortira vivant. La nuit tombe. Le prêtre attend devant la croix plantée dans un rocher gris. Il a appelé la mère le matin. Il sait où la trouver, comment l'atteindre. Lorsqu'il demande, elle vient. Mais la mère est vieille. Le prêtre ne sait pas que cette fois son fils arrive. Quand la silhouette du garçon apparaît au pied de la colline, le prêtre, noir d'habit et d'iris, pense qu'un voyageur s'est égaré. Il avance promptement, ne souhaitant pas être dérangé quand la vieille viendra, mais alors que sur ce chemin à peine plus large qu'un grand cercueil, les deux hommes se rapprochent, le prêtre reconnaît immédiatement l'étranger. Il y a dans sa démarche, dans son reste d'enfance, la trace de la mère, son pas inaudible, son calme, sa chevelure volante, mal peignée, et son dos droit malgré les 30 kilomètres à pied. Le garçon s'arrête au milieu du chemin. Il incline la tête et murmure.
Vous savez qui je suis.
Le prêtre esquisse un sourire. Vous êtes le fils de votre mère et vous êtes arrivé bien vite. Suivez-moi. Ils reprennent route côte à côte. De loin, on croirait des amis qui se rendent à un dîner sous les arbres. Mais vite, ils disparaissent. La nuit est entièrement là. Deux hiboux se répondent de l'autre côté du pont. Le prêtre veut dire quelque chose, que c'est bon signe quand on arrive d'entendre ces ululements. Rarement, les oiseaux nocturnes souhaitent la bienvenue. Mais c'est la première fois que le garçon vient ici et le prêtre sent son cœur battre à ses côtés à mesure qu'il pénètre dans la rue principale. Les maisons dorment. Les deux hommes passent le pont, les chaussures du prêtre claquent sur les pavés inégaux et les savates du garçon glissent. Il semble marcher sur l'air, pense le religieux. Le gave est furieux. Le prêtre entend l'eau éclater sur les roches. Il croit sentir le pont se dérober sous ses pieds. La rivière se retourne dans son lit. Elle a commencé à ruer quelques heures avant l'arrivée du garçon, et son compagnon jurerait que sur son passage, elle hurle. Mais l'enfant aux cheveux de vieillard ne quitte pas l'église des yeux. Je dois dormir quelque part. Tout est arrangé. Il y a une ancienne dépendance du presbytère à l'arrière, répond le prêtre en pointant du doigt un espace flou à côté du clocher. Votre mère a pour habitude de loger là. Le fils se remet en marche comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Le prêtre connaît ces gens. Rien du monde des hommes ne leur est inconnu, sauf les bonnes manières. Ils suivent le bord de l'eau, cheminant sur d'anciens remparts écroulés. La nuit est pleine d'oiseaux hurleurs et de froissements de branches. On n'entend rien des maisons fermées. Aucune lampe n'éclaire les fenêtres désolées et les paliers en forme de coquillage. Ils avancent sous un pauvre croissant de lune. Le prêtre reconnaît par cœur le fond du puits. Le garçon voit les choses cachées. Il n'a pas besoin de lumière. Elle l'empêcherait de faire son travail. Sur la route, entre sa maison natale et le hameau des basses collines, il a plusieurs fois protégé ses yeux du soleil. Il s'est arrêté sous des arbres énormes. Il a pensé qu'il aurait dû partir plus tôt, avant l'aube, pour avancer de nuit. Il ne connaît que cela, les ombres qu'il suit, qu'il fouille, qu'il traque. Comme sa mère le lui a appris, elle ne travaillait jamais en plein après-midi, privilégiait toujours les petits matins et les lisières de crépuscule. La journée, elle gardait le lit ou le fauteuil devant la cheminée et son fils jouait ou travaillait sur le tapis en attendant qu'elle se lève. Il a passé 20 ans au pied d'une femme silencieuse et maintenant, dans cette nuit qui l'accompagne pour sa première visite, le bruit du village endormi l'assaille. Son oreille est pleine de la rivière furieuse, des hiboux et des grincements de volets. Il n'est pas habitué à tant de vie. Il ne sait pas ce que signifie d'être ainsi placé au centre des hommes. Le raffut est tel qu'il secoue la tête comme une vieille mule, et ce que le prêtre prend pour de l'orgueil n'est autre qu'une douleur vivace d'être de ce monde sans être de ces gens.